Salut à tous! Petite annonce avant de rentrer dans cet épisode de Vue du Banc. Pour vous rappeler qu'à l'inscription sur PMU.fr, notre partenaire, vous pouvez avoir jusqu'à 100 € offerts avec le code VDB. Et n'oubliez pas de jouer responsable.
Vue du Banc, le podcast pour comprendre le jeu, vous est présenté par PMU.fr.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le 9e épisode de la saison 9 de Vue du Banc. Dans cet épisode spécialement consacré à la Ligue des Champions, nous allons parler à la fois du Paris Saint-Germain qui a été battu par Manchester City et par Lille qui a réussi à l'emporter contre Salzbourg et qui se replace bien avant son dernier match contre Wolfsburg. Je suis accompagné des deux tolliers habituels, d'abord de Florent Tonuti, salut Flo.
Salut Raphaël.
Et de Christophe Cuchely, salut Christophe.
Bonsoir Raphaël, bonsoir à tous.
Les deux propriétaires de chats de Vue du Banc, ils ont deux chats très mignons. Contrairement au PSG, qui n'a pas été très mignon ce soir, laissez-moi mon intro, de qualité, qui n'a pas été très mignon ce soir puisqu'il a été très moyen contre Manchester City, victoire 2-1 des Citizens à domicile contre les Parisiens. Je vais donner les compositions et puis après vous enchaînerez sur le contenu de la première période. Du côté de City, Ederson dans les buts, une défense à 4, Walker, Stones, Diaz, Cancelo, on va voir que ça se déforme en possession, un milieu à 3, Gundogan, Rodri, Zinchenko la surprise du 11, et un trio d'attaque, Mahrez, Silva, Bernardo Silva et Raheem Sterling. Du côté du PSG, le 4-3-3 qu'on avait vu ces dernières semaines avec Navas dans les buts, Nuno Mendes, Kimpembe, Marquinhos, Hakimi derrière, Herrera, Paredes et Gaï au milieu puisque Verratti et Wijnaldum étaient forfaits, et devant donc Messi à droite, Mbappé dans l'axe et Neymar à gauche. Là aussi ça a évolué en cours de match. Florent, la première période, est-ce que le PSG a réussi à agresser, à harceler Manchester City et à défendre ensemble? On sait que c'est quand même le thème majeur de la saison du PSG, même si l'espoir est vain, est infime concernant ce thème-là, mais est-ce que le PSG a réussi à proposer quelque chose de cohérent collectivement? Ils avaient réussi au match aller à sortir quelques ballons intéressants, notamment via Verratti, à casser le pressing de City et à se procurer des occasions. Comment ça s'est déroulé sans Marco Verratti?
Ça a été beaucoup plus compliqué pour exister, pour ressortir des ballons. Il y a deux choses dans ce match. En fait, il y a les premières secondes et les premières minutes où tu vois Paris qui a l'air de dessiner un sapin de Noël avec Messi et Neymar derrière Mbappé. Et puis derrière, vraiment, toujours ce bloc de 7 qui va coulisser sur la largeur et défendre. Alors parfois, il y avait les retours défensifs de Mbappé, de Neymar, parfois même de Messi. Mais le vrai problème sur cette première mi-temps, c'est autant on est habitué de voir Paris défendre à 7 et puis des attaquants qui reviennent défendre un petit peu à la carte quand il y a vraiment un temps fort adverse ou quand il y a vraiment un danger et une menace à combler, à éteindre, on va dire. Là, ce qui m'a particulièrement gêné sur cette mi-temps, c'est que les 7 de derrière ont vraiment essayé de sortir au sol, ont vraiment essayé de... ont eu des ambitions pour ressortir la balle proprement, et le problème c'est que les trois de devant se sont très très peu montrés, et ça c'était assez terrible parce que du coup on avait City qui pressait, City qui n'hésitait pas à aller chercher très haut le PSG, et puis c'est sept joueurs qui faisaient les efforts pour essayer de se mettre dans le bon sens, qui parfois réussissaient à sortir des ballons eux-mêmes, mais qui au bout d'un moment ont eu vraiment besoin des décrochages et de la disponibilité des trois de devant, et ces trois-là ont totalement disparu, et ça, c'est, on peut dire, c'est aux alentours de la demi-heure de jeu que ça a basculé, et que t'as vraiment eu un temps fort de City jusqu'à la mi-temps, alors qu'en début de partie, on les voyait un peu. Mais pour là, la vraie problématique, c'est ça, c'est-à-dire que jusque-là, on avait vu un PSG qui était capable, qui avait fait le choix de défendre à 7, mais qui, avec la balle, tout le monde s'agitait un petit peu. Là, aujourd'hui, on avait vraiment un PSG qui, même pour ressortir le ballon, en gros, un PSG qui était vraiment à 7 dans sa moitié de terrain.
Est-ce qu'il existe des solutions, Christophe, pour se sortir du pressing de City, à part avoir un joueur exceptionnel comme Marco Verratti, que tu es en train d'étudier pour des premières fois à venir sur Copa Arena, d'ailleurs sur les débuts de Marco Verratti à l'époque avec Pescara? Est-ce qu'il y a une autre solution aujourd'hui, quand on voit la force collective de City, qui après quelques matchs un peu plus moyens en début de saison a vraiment trouvé son rythme de croisière en championnat?
En fait, le truc, c'est que j'ai parfois l'impression que tous les Parisiens ne vivent pas le même match, comme toi, tu ne vis pas la même chose que nous sur Copa Arena, puisque tu parles au futur d'un épisode sur Marco Verratti qui est sorti il y a plusieurs jours.
Pardon, mais je travaille pas pour ce média, donc je suis pas trop au courant des choses.
C'est bien amené, hein. Je t'ai fait croire que j'allais parler du match alors qu'en fait, je t'ai mis un tacle glissé. En fait, il y a une solution toute simple. dont la non-utilisation me surprend pas mal. C'est simplement de faire décrocher Messi ou de faire décrocher Neymar. Alors j'entends bien le geste de Florent qui fait micro-état, mais qui fait bah oui. Et j'entends bien la remarque potentielle de se dire bon bah du coup, tu perds quelqu'un en transition éventuellement, certes à ton équipe coupée en deux, mais ça te fait quand même trois joueurs qui sont là pour jouer la carotte et qui peuvent faire des énormes différences. Déjà vu la vitesse de Messi avec et sans ballon, c'est-à-dire qu'il n'a jamais été extrêmement rapide pour courir après le ballon. Même là sur les conduites de balle, je me souviens d'une transition où honnêtement on a l'impression qu'il ne court pas. Et sincèrement, je ne sais pas à quel moment il va falloir faire le débat Messi. Je suis premier à dire que Messi, pour moi, est assez nettement le meilleur joueur de l'histoire, donc je ne suis pas du tout là à relativiser le joueur à son vrai niveau. Mais là, honnêtement, je veux dire, dans cette équipe-là, je préfère encore mettre Nkunku, hein, je veux dire, sur le niveau intrinsèque, ce que ça peut apporter à une équipe. Je vois des dizaines et des dizaines de joueurs qui... sur ce qu'ils vont t'apporter avec ballon et ce qui ne te coûte pas sans ballon seront meilleurs que lui. Mais bref, à partir du moment où un joueur comme ça est incapable d'être, en gros, de profiter des 20 mètres d'avance qu'il aura si tu arrives à ressortir la balle, parce que du coup il va les perdre, parce qu'en face en plus il y a quand même 2-3 mecs qui cavalent, qui sont capables de te rattraper, mais genre fais décrocher Messi, alors ça peut être Neymar aussi, mais fais-le jouer dans un rôle à la Verratti. Ça peut paraître un peu contre-productif, mais au final une zone de densité c'est une zone de densité, et si t'es capable de sortir pour créer quelque chose dans les 30-40 derniers mètres adverses, d'être dos au jeu, de te remettre face au jeu et ensuite de lancer pour aller vers le but, c'est globalement les mêmes choses quand tu fais ça plus ou moins devant ta surface, avec peut-être même le côté c'est pas forcément des joueurs, en gros tu vas plus éliminer des milieux ou des offensifs qui vont venir sur le pressing à la perte dans ton camp, ou du pressing classique si tu relances au sol, là où dans les derniers mètres adverses tu vas plus avoir des joueurs défensifs, donc qui ont encore une meilleure science de tout ça. Donc ça peut paraître étonnant sur le papier, mais quand tu regardes sur les attaques placées face à Rennes et d'autres matchs, hein, Messi jouait quasiment à hauteur des centraux sur certaines phases de possession, et face à l'Atalanta, Neymar jouait limite double pivot, enfin voilà, il jouait extrêmement bas pour créer ces différences-là. Fais-en décrocher l'un des deux, puisque de toute façon, tu peux aussi marquer des buts en n'ayant que deux offensifs qui jouent la carotte, voire un seul. C'est-à-dire, dans l'absolu, tu peux même faire décrocher et Neymar et Messi, laisser Mbappé seul devant. Je suis pas persuadé que ça changerait fondamentalement les choses sur la partie offensive. Par contre, tu réussirais peut-être à sortir 2-3 ballons de tes 30 mètres sans avoir ce côté où, sur le fil, ou même quand tu arrives à les sortir, tu sens que Gueye et compagnie sont pas non plus 100% sereins dans leur prise d'initiative.
Surtout, vas-y, je mange juste les stats flow de Messi, ouais. Ça a peut-être aidé ton propos sur le match. 53 ballons touchés, un tir, une occasion créée, un dribble réussi. Ce qui est très pauvre hein, pour un match de Messi, même si le PSG n'a pas eu le ballon. C'est vrai qu'on aurait imaginé un Messi qui touche plus de ballons dans l'axe, qui casse ce pressing, et puis ensuite qui lance par la passe Mbappé, puisque lui-même ne peut plus aller jusqu'à la surface adverse.
Bah ça, on l'a vu en début de deuxième mi-temps, pour le coup. On a un Messi réaxé, un Mbappé à droite, un Neymar à gauche, et un Messi plus disponible dans le cœur du jeu. Mais c'est vrai que le vrai souci, c'était dans les 40, pour sortir les 40 premiers mètres, parce que une fois en revanche que Paris réussissait à sortir de ces 40 mètres là et se retrouvait face à un bloc de City qui reformait son 4-4-2 dans sa moitié de terrain, enfin avec son bloc médian et qui ensuite reculait, dans cette situation là il n'y avait pas trop de soucis parce que tu pouvais toucher Neymar et Messi et tu n'étais plus forcément en difficulté. Mais c'est vrai que sur ces 40 premiers mètres, Paris avait eu beaucoup plus besoin du talent de Neymar et de Messi pour sortir les ballons qui n'ont pu le faire, et ils ne se sont pas assez montrés pour aider les sept autres qui, enfin j'ai envie de dire qu'ils n'ont pas démérité pour le coup, parce que c'est vrai que par contre en face City mettait pas mal de pression.
Est-ce que Flo City a fait un grand match, ou est-ce que c'est dans leur standard et c'est juste qu'ils sont tombés sur une équipe qui pouvait pas leur poser de problème par rapport à leur force?
En fait le problème de City, c'est que tu vois une domination qui est immense en première mi-temps, en deuxième mi-temps, mais en fait il y a des moments dans le match, et notamment les moments où l'adversaire a le ballon dans leur camp, où tu te dis Paris, tu vois, quelques secondes avant le deuxième but, il y a Neymar qui a une balle de 2-1 sur une action improbable où il rentre dans la surface après un ou deux appuis dans l'axe. Enfin, c'est une action qui se crée tout seul quasiment.
Mais après une belle préparation.
Après une belle préparation, oui, une bonne sortie de balle, etc. Même le but parisien, c'est une bonne sortie de balle côté gauche avec Messi qui décroche. Ça trouve Neymar qui lance Nuno Mendes, il me semble, sur le côté, en une touche. Enfin bref, le but parisien est très bien amené. Il y a deux, trois situations comme ça qui sont bien amenées. Mais je pense que dans l'occupation du terrain, dans la domination, City fait un grand match. Allez, j'ai envie de dire que City fait un bien meilleur match qu'à l'aller, oui. Notamment aussi dans le dernier tiers, parce que Mahrez est beaucoup plus inspiré. À l'aller, je crois que c'est Grealish qui nous avait particulièrement énervé. Là, Sterling fait pas un immense match, mais il est présent, il met son but, même s'il est pas loin de la rater, j'ai l'impression. Mais j'ai pas l'impression que ce soit une prestation immense non plus de City, mais je les ai beaucoup moins vus que Christophe, donc il sera peut-être mieux en
mais
parler.
Par contre, je trouve que le contraste entre les deux équipes à chaque fois sur l'activité défensive est très douloureux en fait pour le Paris Saint-Germain, quand tu vois que jusqu'à la 87e, 88e, t'as Bernardo et Jesus qui sortent sur Navas le presser pour récupérer haut, et en face, le PSG est incapable de s'installer 5 minutes dans le camp adverse. Ça, c'est quand
oui,
même...
bon, ça, malheureusement, j'ai envie
Ouais, mais
de te
tu vois,
dire.
tu peux le faire au moins de temps en temps. Je veux dire, tu peux avoir une entame de match ou 10 minutes où tu presses, où tu... Enfin, ils peuvent courir un petit peu, les mecs, mais je sais même pas s'ils peuvent courir un petit peu finalement. Et c'est...
Mais là, sur ce que tu dis, par contre, c'est vrai que c'est pas une surprise, mais c'est vrai qu'à 2-1, il n'y a aucun moment où tu as l'impression que le style de jeu fait que tu pourras avoir un esprit de révolte, en fait. C'est-à-dire que le fait de pas trop courir quand t'as pas le
Bah,
ballon
t'es tellement
fait que City
monorythme.
va t'éteindre. C'est vraiment l'équipe qui est parmi les très grandes d'Europe, City qui est les équipes les plus vulnérables à la possession défensive et au style de jeu de City en fait. C'est une fois que le pari est mené face à une équipe de City qui fait pas n'importe quoi, mais ça serait la même chose face à Chelsea dans des proportions peut-être un petit peu moindres. Tu te dis ils peuvent potentiellement être impuissants et ne plus jamais avoir le ballon et en gros avoir un temps très faible pendant 10
C'est ce qui s'est
minutes.
passé à 2-1.
Et
Bah oui.
sur les 10 dernières, je crois que Guardiola, on le voit à chaque fois dire, mais calmez, calmez, calmez,
Oui,
calmez, gardez le ballon, et voilà quoi.
et s'énerver à chaque perte de balle,
Oui.
un peu débile en plus, ouais.
Ouais, parce qu'ils ont failli, et même à la dernière minute, il y a un ballon au deuxième pour Mbappé où Ederson sort bien, mais c'est une situation que tu dois pas concéder alors que
Il y a
t'es
même
bien meilleur dans la tenue du
il y
ballon.
en a une parce que sur RMC, je crois que c'est l'homme de terrain qui le relève. Je sais plus à quel moment du match c'est exactement. Je me demande si c'est pas quelques minutes justement avant l'occasion de Neymar dont je parlais là. C'est quand Mahrez fait une passe un peu bête vers. Il est dans le demi-espace à droite et il cherche un joueur à l'intérieur et c'est une passe en cloche qui est récupérée par les Parisiens. Alors que elle a pas lieu d'être et tu peux garder la balle sans prendre ce risque-là. Et finalement, ça relance une possession de Paris et ça permet à Paris de récupérer le ballon dans une position assez haute qui empêche City de mettre en place son contre-pressing et d'essayer de récupérer rapidement. Et c'est le pire genre de truc parce qu'en fait. City perd la balle dans une situation où ils peuvent pas vraiment presser et où Paris peut directement lancer un temps de jeu. Et comme on le disait tout à l'heure, si tu arrives à lancer un temps de jeu hors de tes 40 mètres face à City, avec la technique des joueurs parisiens, tu peux la garder et tu peux même arriver à créer le danger si tu touches tes attaquants.
Ouais, sachant que City, dès qu'ils défendent dans leur camp, c'est très vite friable quand même.
Oui,
Et on l'a
ben on
vu
l'a vu hein, sur le match.
depuis plusieurs années, hein, mais bon, ils ont tellement pas l'habitude de défendre dans cette configuration-là. Guardiola l'avait fait un peu plus lors du Final 8, si vous vous rappelez, contre le Real, là, où ils avaient défendu un peu plus bas.
Ils avaient pressé très haut aussi
Ouais, mais
sur ce
il y avait un
match-là.
match où ils avaient vachement changé
Bah, c'était contre
de
Lyon.
hauteur de
C'était
bloc.
contre Lyon. Ils
Mais
avaient
contre le
perdu.
Real aussi, contre un des deux matchs du Real, je crois qu'ils gagnent l'aller et le retour, ils sont un peu
Ah,
plus
c'est peut-être à l'aller.
tranquilles. Ou l'inverse, je sais plus. Il y a un des deux en tout cas où c'était
Ouais,
un peu
c'est
plus
possible.
tranquille.
Bah, l'aller, ils font que balancer loin devant
C'est
pour aller
ça.
presser et espérer que Varane leur rende la balle jusqu'à ce que Varane leur rende la balle.
Oh,
Donc c'est au retour qu'ils sont
vous me
fauchés.
connaissez, je ne l'en voudrais pas. C'est une stratégie que je comprends tout à fait. Vu les qualités de l'ami de mon homonyme. Du côté des individualités de City, qui vous a plu? Boys, Cancelo évidemment j'imagine, mais Cancelo en ce moment fait que des bons matchs. Bernardo est revenu à un grand niveau
Moi,
depuis
c'est
que.
Rodri.
Ouais.
Ah bah vas-y, vas-y
Rodri.
Christophe.
Parce que c'est un joueur que j'ai envie d'aimer, mais que je déteste assez régulièrement. Donc, j'ai une relation extrêmement ambiguë avec ce joueur où vraiment les qualités sont là, mais en même temps, il y a des défauts. C'est un peu comme. Mais sans être jamais monté aussi, évidemment, mais c'est un peu comme Busquets, les mauvais matchs de Busquets où il doit courir après la balle. Tu vois qu'en fait, il avance pas du tout. En gros, ce sont vraiment des joueurs qui ont besoin de jouer en chaussons, quoi. C'est-à-dire. Pouvoir uniquement défendre en avançant sur quelques mètres dans une équipe bien structurée et être des joueurs qui utilisent bien le ballon en
Et
possession.
d'ailleurs, la puissance de sa frappe de balle n'a aucune cohérence avec le reste de son jeu, je trouve.
Oui, qui parfois assez léthargique. Et c'est vrai que là, bon, il a tiré n'importe où, mais il a mis une lucarne à Everton ce week-end, match où Cancelo avait fait une passe décisive exceptionnelle. Son premier but et où Silva avait mis le troisième, donc les trois joueurs qui sont peut-être trois des quatre meilleurs sur cette rencontre, si tu rajoutes Mahrez.
Ouais.
Mais pour dire Rodri que, alors évidemment, il est sur la passe de l'égalisation en profondeur pour Walker, il est globalement de la plupart des renversements de jeu, soit pour Walker, soit pour Mahrez, parce que gros thème quand même la défense de la largeur côté parisien, et Mahrez qui passe tout le match tout seul, en fait, de manière générale. Honnêtement, Mahrez, plus de liberté sur ce match-là que face à Djibouti.
Mais c'est déjà comme ça contre Leipzig, Flo, que le deuxième poteau avait été efficace pour les adversaires du PSG.
Bah, je pense que Christophe allait y venir, donc je vais faire court et le laisser repartir après. Mais ça, c'est vraiment un enseignement quand même pour tous les futurs adversaires du PSG, que ce soit en championnat d'ailleurs, sur un match ou en Ligue des Champions, c'est qu'il y a vraiment une vraie vulnérabilité de cette équipe pour la défense de la largeur, parce qu'en fait, il y a deux problèmes, c'est qu'il y a cette défense à 4, et on sait que pour bien contrôler la largeur en phase défensive, c'est encore mieux d'être à 5, mais en plus, il leur manque un truc, c'est que ça manque aussi d'activité côté ballon pour empêcher les renversements de jeu. C'est-à-dire donc il y a les deux problèmes. Donc quand t'es dans une situation où t'es côté gauche, c'est ce qu'a fait City, ils ont surchargé à gauche parce qu'ils avaient Cancelo qui montait et ils avaient Zinchenko en première mi-temps et Sterling, donc ils surchargeaient dans cette zone-là et ensuite ils ressortaient soit directement via Cancelo, soit en trouvant Rodri et en renversant à l'opposé. Et à l'opposé t'avais donc en surchargeant ils attiraient Marquinhos à gauche et tout le reste de la ligne défensive, et t'avais Bernardo qui se positionnait non pas entre Marquinhos et Kimpembe, mais entre Kimpembe et Nuno Mendes, ce qui fait que ça obligeait Nuno Mendes à rentrer intérieur et ça libérait Mahrez côté opposé.
Appelle la Allemagne-Portugal Euro 2021, ouais, enfin 2020. Ouais.
Mais ce qui est intéressant, c'est que tu vois, par exemple, l'Allemagne, elle occupait toutes les zones, elle occupait les 5 couloirs de jeu. Là, City n'en occupe que 4 en phase offensive, parce qu'ils gardaient Rodri et Gundogan en protection. Et en fait, au moment du renversement, Gundogan arrive en deuxième rideau, en première mi-temps. En deuxième, il y a eu l'entrée de Gabriel Jesus et ça a changé. On a vu ces cinq couloirs de jeu occupés.
Comme le PSG défend à 7, tu peux attaquer que 4 couloirs. Enfin, tu peux n'attaquer que sur 4 couloirs.
Oui, voilà, c'est ça.
Vu qu'il n'y a pas les liens à l'opposé pour aller aider au deuxième.
Mais c'est un point intéressant parce que ça permet aussi à City de garder une sécurité supplémentaire avec Gundogan plus bas sur les séquences de préparation, et pas un Rodri qui serait seul dans cette zone-là pour le contre-pressing. Et du coup, c'est vrai que City marque des buts, comme Leipzig a mis des buts au PSG avec Angelino au match aller.
Il n'y avait pas Mukiele qu'on avait mis un comme ça aussi
Peut-être Mukiele aussi, ouais, en effet.
Il en met un comme ça sur un centre qui vient de la gauche, et il débarque dans le dos au deuxième poteau, il met une volée sous la barre, là, en une touche.
C'est possible. Tout ça pour dire que quand tu vois Chelsea avec Rhys James, avec Chilwell, quand tu vois l'Atalanta, même si c'est plus le même niveau que les saisons précédentes, mais avec ses pistons qui peuvent finir très fort sur les côtés aussi, Paris jusque-là a affronté des équipes qui avaient le plan, mais qui n'avaient pas forcément les joueurs pour finir dans la surface et monter sur les latéraux parisiens. Là, sur les prochains matchs, on verra le tirage, mais tu peux tomber sur des équipes qui seront particulièrement armées dans ce secteur et ça peut faire encore plus mal que City.
Je te donne un match, Flo, et après je laisse repartir Christophe. 4 décembre, le PSG va à Lens.
Oui, mais c'est ce que j'allais dire. On verra déjà un beau test et je pense que la prépa de match lensoise, puisqu'ils s'adaptent, ils gardent leurs principes, mais ils font toujours des petites adaptations, des petits circuits préparés en fonction des adversaires. Ça peut être un match très très intéressant, à la fois pour les Lensois face à un tel adversaire, mais aussi pour la défense parisienne qui va passer un gros test à l'échelle Ligue 1.
Christophe, est-ce que tu te rappelles de ce que tu voulais dire ?
Ah oui, parfaitement, je vous écoutais. On était parti de Rodri au départ, finir le petit crochet Rodri pour dire que quand même, dans ces situations-là, c'est là que tu te rends compte qu'avoir un meneur reculé, numéro 6, enfin, en tout cas, milieu point de basse, capable de faire de telles ouvertures, c'est quand même assez intéressant et finalement très rare à l'échelle du foot, même tout le temps, hein, finalement, parce que quand tu remontes les années, il y a très peu d'équipes qui, de manière générale, faisaient autant de je surcharge d'un côté et du coup j'ouvre à l'opposé. Donc il y avait besoin de ces transversales-là. Mais vraiment, il en rate aucune des ouvertures. Et vraiment, il faut voir des vieux matchs pour se rendre compte de la qualité technique des footballeurs d'aujourd'hui. À la fois lui sur les passes et Mahrez sur les contrôles en extension, en pleine course, le ballon qui quitte pas le pied, etc. On est quand même sur une capacité à faire rendre simple des gestes qui sont quand même assez fous techniquement.
Il faut préciser que la qualité des pelouses s'est grandement améliorée aussi, ce qui peut aider au moment de lever un ballon, parce qu'il y a quand même des trucs qu'on a vus nous à travers nos nombreux visionnages.
Oui, folklorique. Oui, Oui, bah même la première ligue, enfin foot anglais pré-première ligue et début de la première ligue, c'est pas des terrains.
Ça fait partie des raisons pour lesquelles il jouait beaucoup dans les airs aussi. Hein, c'est que entre le climat et la qualité des pelouses, au sol, tu pouvais pas faire grand-chose. Mais oui.
C'est ça. Mais non, donc juste pour boucler ce que, quand même, du coup, j'ai raccroché le wagon que vous aviez fait partir dans le train de l'analyse. Bon, mini parenthèse, je viens de voir les dégagements des deux équipes. Nous sommes à 15 dégagements défensifs pour Paris, 0 pour City, ça m'a fait rire. Mais je regardais aussi les touches de balle de Bernardo Silva pour l'occupation des couloirs de jeu, ce que vous disiez, parce qu'il est quand même censé être un peu faux numéro 9, axial, avec Mahrez et Sterling à ses côtés. Vraiment, si on regarde la carte des ballons touchés, il y a deux ballons axiaux, un, donc il en touche 54, hein. Un à 45 mètres du but, un à 38-40 mètres du but. Il y en a un qui est dans les 6 mètres au niveau du point de pénalty. Sinon, sur ces 54 ballons, il les touche tous demi-espace gauche, demi-espace droit, voire long de la ligne de touche d'un côté ou l'autre. Et vraiment, il y avait, c'est pas juste faux numéro 9 qui décroche, c'est vraiment l'axe n'était occupé par personne. Et finir pour dire que Rhys James, qui est l'un des meilleurs joueurs de ce début de saison, mais même, alors c'est un échantillon de quelques mois, hein, mais honnêtement, des latéraux de ce niveau-là, j'ai même la très grande saison de Maicon, où c'était pas à ce niveau de délire-là sur la capacité à être hyper décisif offensivement, mais aussi solide ouais, derrière.
Il y a un mode Facchetti, là.
Si tu joues Rhys James sur un match comme ça, sincèrement, je pense qu'il te met 3 buts et une passe D. Hein. Enfin, parce que là, tu profites du fait qu'il y a le décalage structurel, mais que t'as pas toujours les joueurs qui sont là pour exploiter les centres. Si t'en as un, comme disait Florent, alors toutes les équipes, genre t'as un Gosens, t'as pas forcément la qualité pour faire le décalage au début, donc voilà. Mais il peut très bien y avoir le Allemagne-Portugal bis si tu tombes face au mauvais adversaire.
Et sur les stats, justement, je regardais le nombre de ballons touchés, parce que Flo, tu disais que Mahrez était souvent libre. Et il fait partie des 3 joueurs de City qui ont touché le plus de ballons. Donc un ailier droit qui touche 96 ballons.
C'est gigantesque.
Alors que la possession est finalement assez équilibrée sur l'ensemble du match. Hein. C'est 54-46 parce que les phases de possession de Paris étaient rares mais étaient longues. Il y a quelques phases où ils ont répété beaucoup de passes. Bah, 96 ballons pour un des 3 de devant. Enfin un des 4 de devant côté City, du coup c'est assez... La police des stats vient m'interpeller.
Ah, c'est chez toi, d'accord, je pose la question.
Je précise, c'est quand même assez marquant, sachant que les deux autres, c'est Cancelo et Rodri, mais ça c'est un peu plus logique, puisque en possession, ce sont les deux milieux de terrain de City.
Et côté parisien, c'est Marquinhos qui en touche 99, d'après ce que je vois.
Oui, et on sait où il les touche, hein, dans sa surface. Hein,
c'est vrai que sa heatmap doit être assez spéciale à Marquinhos, en effet.
Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à dérouler de la rencontre, messieurs ? Donc, on n'a pas parlé des buts en eux-mêmes, mais Mbappé a ouvert le score à la 50e sur une des sorties de balle réussie du PSG. Derrière, Guardiola fait entrer Gabriel Jesus à la place de Zinchenko, qui était un peu l'intrus de la compo, quand même, au départ.
Bah, de Bruyne absent, quoi.
Ouais, mais pourquoi pas mettre Bernardo dans les trois du milieu et y aller, tu vois. Enfin, j'aurais pu se penser à ça, parce que Zinchenko avait très peu joué cette saison jusque-là. Et Jesus fait passe D sur le premier but. Et il marque sur le deuxième, dans deux actions très similaires, puisque c'est un reversement de la droite vers la gauche et un de la gauche vers la droite, dans l'autre ordre, avec un joueur qui arrive lancé dans le dos, qui part au bon moment et qui remet en retrait ou devant le but pour un des attaquants présents dans la surface. C'est du City assez classique. En fait, il n'y a pas grand-chose à commenter, parce que City fait son match habituel contre un adversaire qui lui a pas posé de difficultés. Je vois pas trop ce qu'on peut dire de... si génial sur City, parce que tout ce qu'ils ont fait, il n'y avait pas de surprise.
Ouais, bah en fait, ce qu'on n'avait pas aimé du match aller, ils l'ont pas reproduit sur celui-là, quoi. Ce qu'on avait, je sais même plus ce qu'on avait regretté, mais on n'avait pas aimé le match de City à l'aller. C'était notamment individuel, je me rappelle de Grealish en particulier.
Mais il n'y avait pas eu ces ballons. Enfin, il y en avait eu quelques-uns en début de deuxième, je crois. Ça n'avait pas suffi.
Si, il y en avait eu un notamment qui aurait dû faire un partout. Bernardo Silva la rate. On ne sait toujours pas comment il l'a raté, celui-là d'ailleurs.
Sur la barre là.
Ouais, il y a barre, puis derrière il peut la reprendre, il la met à côté, je crois, ou quelque chose comme ça, il me semble. Mais c'est ce que tu disais tout à l'heure. Est-ce que City a fait un grand match? City a fait son match. Il y a beaucoup moins de trucs à dire aujourd'hui sur la perf, tu vois. On était un petit peu, dans mon souvenir en tout cas, ennuyé, frustré des perfs individuelles à l'aller de Manchester City. Là aujourd'hui, il n'y a pas un joueur qui est en dessous, j'ai l'impression. Je ne sais pas si vous en avez un, vous, qui vous vient, qui
non,
est
non.
un peu neutre ou en dessous. À part Sterling, bon. Peut-être, qui n'a toujours pas retrouvé son truc, mais bon, il met son
mais
but.
Il t'apporte une présence dans la surface quand même qui ouais. est, je trouve, un peu plus intéressante régulièrement que les matchs de Grealish ou même de Foden parfois qui n'est pas forcément toujours là sur ces zones, tu vois.
Grealish plus, enfin bien plus attiré par le but que Grealish par exemple, oui c'est sûr.
Ouais, Grealish va frapper d'un peu plus loin et c'est vrai que dans le projet de jeu de City, il n'y a pas forcément les positions de frappe que Grealish affectionne, donc c'est un peu la différence. Est-ce qu'il y a un point Messi à faire pour compléter ce que tu disais, Christophe, tout à l'heure sur les
lignes? Non, mais j'ai envie d'entendre Flo, par exemple, sur le sujet. Moi, je sais ce que je pense, mais le but, c'est pas que je le pense, c'est que je le dise.
Mais la France doit le savoir.
Non, mais j'ai quand même déjà développé. Le fait est que je suis très inquiet sur ses qualités physiques actuelles. Parce qu'à un moment, c'est pas juste la motivation de... Quand t'as une transition, t'es attiré par le but, c'est pas « Ah, j'ai pas envie d'y aller ». C'est là, t'es à 100% et son 100%, il est nul, quoi.
Mais est-ce qu'il était aussi cramé il y a 8 mois?
Non, bah même à la Copa América.
C'est pour ça que
il rate sa finale, mais sur la Copa América, donc c'est il y a le truc potentiel du creux post Copa América. Il a pas eu de pause cet été. N'empêche que, enfin, la saison a repris. On est en novembre. Au bout d'un moment, il va quand même falloir s'y remettre aussi. Je sais bien.
C'est pas vraiment un mec habitué au creux quand même. Mais si, il y en a eu quelques-uns, mais parce qu'il y a des anomalies statistiques. Mais normalement, il a beaucoup plus d'occasions et de situations que ça.
C'est ça, et puis surtout en fait il te coûte tellement sans ballon qu'en fait au bout d'un moment t'es obligé d'attendre beaucoup de lui avec ballon.
Bah, c'est sûr qu'au Barça, une fois qu'ils ont jarté Suarez, il n'y avait que lui qui courait plus au Barça, donc ça t'en faisait un seul, et là t'en as trois. C'est un peu toujours la même chose, mais s'ils ne sont pas exceptionnels offensivement, moi je ne sais pas s'il faut souscrire à la thèse de Daniel Riolo. Je ne sais pas si vous l'avez vu, qu'il était en gestion jusqu'à la Coupe du Monde 2022, que c'était un centre d'entraînement le PSG. Mais c'est vrai que quand tu vois l'investissement physique, il n'y a aucune course défensive. Hein. Je ne sais pas s'il dépasse la marche ou le trot en phase défensive une seule fois dans le match.
Y a un moment, il fait une mini course de 3 mètres pour récupérer un ballon, je crois. Mais vraiment, tu sais, il fait un genre de pression et il contre la passe. Et j'étais content. Mais tu sais, t'es content de ça. C'est comme, t'es content, ton enfant de 1 an, il commence à faire des sons, un peu à parler, quoi. Mais il n'y a pas de... Objectivement, c'est pas ça qui doit te faire pour moi, un très grand joueur.
Même si physiquement il est en difficulté, c'est pas possible qu'un mec qui fait 30 buts, 9 passes D en Liga la saison dernière passe à quasiment rien cette saison, tu vois. Même s'il y a changement d'équipe, c'est le premier transfert de sa vie, etc. Mais ça reste des terrains de foot, quoi. Donc c'est un peu curieux. Mais bon, on verra, ça se trouve, il va se réveiller un moment de la saison. Mais...
Par contre, s'il se réveille, ça devrait faire mal. Mais c'est vrai que là, tu vois ça, ça fait quand même mal au cœur. Je vais pas dire que ça ternit ça. Son histoire, ça léguait ici, mais ça fait un peu bizarre, quoi. Quand tu vois ça, tu te dis mince. Les gens qui prennent le train en cours de route, ils doivent se demander quel est vraiment le joueur spécial qui était au-dessus du lot toutes ces années.
Quelque chose qui n'a rien à voir, mais j'avais envie d'en parler. Et vous m'avez pas répondu quand on a préparé l'émission, donc je vous repose la question. Est-ce qu'il y a une autre équipe que celle de Première Ligue et le Bayern qui peut remporter cette compétition? On est à 5 journées de la Ligue des Champions disputées, on a vu pas mal d'équipes quand même, et celles qu'on n'a pas vues en Ligue des Champions, on les a vues en championnat pour la plupart. Est-ce qu'il y a une autre équipe, une seule, qui est crédible en dehors de donc City, Liverpool, Chelsea et donc le Bayern? Je ne compte pas Manchester United parmi les équipes de Première Ligue.
Défini crédible.
Crédible dans le sens tu leur fais confiance pour aller en finale sans que ce soit un truc lunaire.
Pas complètement. Pour moi, il y a vraiment City, Liverpool, Chelsea, Bayern qui sont deux tons au-dessus de tout le monde. J'exclus pas le fait que le Real, sur son milieu, qui fasse une dernière danse ou avant-dernière avec Modric, Kroos et Vinicius Benzema.
Parce que Vinicius cette saison, c'est un délire aussi.
Voilà. Donc finalement, je veux dire, t'as un tirage, tu tombes contre l'un des clubs portugais en 8e par exemple, normalement t'es favori, tu te retrouves en quart.
Lille en quart.
Pas très loin. Mais oui, je prends Lille en quart. Non, mais il n'y aura pas des intrus, mais il y aura quand même 2-3 équipes abordables, c'est a priori, notamment le Sporting. C'est une équipe correcte, hein, mais quand t'es le Real, même en n'étant pas au top, tu dois passer.
Poule G, elle va envoyer deux équipes très moyennes.
Ouais, voilà, ouais. T'as un scénario où t'as la Poule G et t'as la Poule F aussi. Hein, parce que Man United, Villarreal. Alors après, tout dépendra peut-être le mec qui prendra Man United. On ne sait pas ce qui peut se passer.
Même le deuxième de la Poule E, que ce soit Barcelone ou Benfica.
Ouais. Enfin, après, là,
a priori, Benfica.
Après là c'est un deuxième, donc c'est un peu différent. Mais même,
après tu peux les retour suivant, quoi. C'est-à-dire si t'as genre Lille qui sort premier, qui tombe contre ce deuxième là, du coup t'as l'une de ces deux équipes en quart.
C'est pour ça que je dis, c'est pour ça que je parlais du quart, ouais, en effet. Ouais. Ça peut, t'as au moins 2 huitièmes de finale avec les premiers des poules qu'on a donné, donc la poule de United et la poule de Lille. Ou si t'as un deuxième qui n'est pas en gros, tu peux avoir deux quarts de finaliste très abordables, quoi. Et, à moins qu'ils se rencontrent et que tu aies un demi-finaliste encore plus abordable. Mais voilà.
Et puis après, il y a l'Ajax.
Et après, là, il y a l'Ajax, ouais.
C'est vrai que j'ai pas mentionné l'Ajax, alors qu'en plus j'ai vu là encore leur match tout à l'heure avec Haller qui rentre, qui met un doublé. Vraie interrogation. En gros, bon, il y a quatre équipes qui ont et le style de jeu, la qualité, les individualités. Donc voilà, t'as deux équipes qui ont les individualités, pas vraiment de style, mais ça peut se réveiller. Le Real est dans une moindre mesure pour le style Paris, parce que là-dessus c'est quand même assez compliqué. Et il y a l'Ajax qui navigue un peu, où j'ai dit depuis plusieurs mois que ça ne surprendrait pas qu'ils soient en demi, voire en finale, parce que je les trouve plus forts que sur la campagne où ils font demi. Donc du coup je serais pas surpris non plus, mais il y a toujours la question du plafond, c'est-à-dire qu'à l'heure pour l'instant, une hyper réussite, est-ce que à l'heure Bergeuys, Anthony en 2021, c'est suffisamment bon pour te sortir de match où ça se jouera sur des individualités dans les deux surfaces?
Après, ils sont meilleurs que tous les deuxièmes de poule.
Ah oui, je pense. Ouais.
Collectivement, enfin, là, en tout cas, après ça peut mal tourner contre Paris, ça peut mal tourner contre la Juve, mais tu vois, la saison où ils sortent, la Juve et la Real, ils n'ont pas la marge qu'ils ont aujourd'hui.
Tu vois, la Juve, moi, je ne l'ai même pas dans le groupe Paris, mais... Paris-Real, où ils ont les individualités, mais pas le jeu. Même sur les individualités...
Alors que pourtant, gagner, c'est si simple.
Oui. Alors, ce qui est drôle, c'est que du coup, on a enregistré cet épisode en deux fois. C'est-à-dire que là, on enregistre la première partie à mercredi soir. La partie lilloise, on l'a enregistrée hier. On a fait un petit montage. Et du coup, on a hier fait une dédicace à Gagner, c'est si simple, le livre de Allegri. Du coup, les gens l'entendront deux fois, 10 minutes d'écart. Alors que nous, on a oublié qu'on l'avait fait, quoi.
Mais non, parce qu'on aime bien Massimiliano. C'est notre petit troll. Parce que c'est un troll, Allegri, il faut le dire aussi. Hein, dans cette déclasse, c'est un énorme troll. Il aime beaucoup ça.
Donc. Par contre, le 4-0, c'était pas du tout un problème, oui. Parce qu'ils ont pris par Chelsea, là c'était bien réel.
Le troisième but de Chelsea, et je l'ai vu du coup, parce que tu me l'as conseillé, Christophe, j'ai vu tout le résumé. Très sympa le troisième but de Chelsea. Voilà. Sinon, il y a quand même des poules. C'est très très la Ligue des Champions. Je trouve qu'il y a beaucoup d'écarts cette saison entre les candidats. Je pensais qu'au début de l'année, ce serait une édition assez ouverte. Puis finalement, il y a quatre équipes qui sont
c'est ouvert entre les quatre,
largement
quoi.
Au-dessus. Ouais,
par contre, c'est difficile vraiment de déterminer une hiérarchie entre ces quatre-là, je pense.
Et même sur les 2-3 ans à venir, je vois quelle équipe, en dehors de celle-là qu'on vient de citer, peut aller chercher City, Chelsea, Liverpool et le Bayern. Parce que tant qu'il y aura Nagelsmann, Guardiola, Klopp et Tuchel, plus l'argent que ces équipes ont et la structure.
Bah après, ça va dépendre de la vitesse de... Parce que ces équipes...
Après, si le Real chope Mbappé, évidemment.
C'est ce que j'allais dire. Ça va dépendre de la reconstruction des deux équipes espagnoles, quoi. Et si elles arrivent... Enfin, elles vont réussir à se reconstruire, mais à voir combien de temps ça va prendre, quoi.
Parce que le Barça... Alors, c'est un truc que je vais suivre de près, mais je sais toujours pas quoi en penser. Est-ce que ça sera comme le process des Sixers, c'est-à-dire des mecs que tu fais jouer beaucoup plus tôt que prévu sur les temps de passage, mais qui vont... Alors, ça, ils vont pas perdre tous les matchs.
Mais ils sont déjà avec Gavi et Nico, hein, je pense. Sur le...
Non, mais en gros, si... Vraie question de Gavi, Nico, Pedri. T'as brûlé les étapes avec eux, du coup, ils vont arriver... Je sais pas, ils auraient dû être intégrés dans un an, dans deux ans. Finalement, ils vont jouer dès maintenant. Est-ce que du coup ça fait que dans deux ans t'as un milieu de 21 ans de moyenne d'âge qui est injouable avec Frankie en plus, ou est-ce que ça va être comme l'époque Mounir El Haddadi, Sandro, même alors sur des timelines un peu différentes, même Cuenca et compagnie,
ou Boyan,
qui a été amené à jouer assez jeune.
Boyan
c'est différent, pour moi c'était vraiment un très bon joueur.
Oui, mais je veux dire il joue très jeune.
Pression. Mais oui, il joue très jeune, effectivement, et tu le vois son niveau à 18 ans, tu fais « Ah putain, 25, ça va être énorme !» Et en fait, ce sont des joueurs qui, voilà, ils n'ont pas eu un plafond plus haut parce qu'ils ont débuté plus tôt, ils l'ont juste atteint plus rapidement. Donc vraie question là-dessus, mais c'est vrai que le Barça, potentiellement, ils peuvent assez facilement retrouver une surface financière. Tu fais venir un ou deux grands joueurs, et t'as Pedri qui arrête de se blesser, Gavi, Nico, Frenkie... Tu peux assez rapidement, je pense, redevenir crédible. Après, sur les hauteurs du Bayern, de Chelsea, je ne sais pas quand même, parce que Chelsea, il y a 23 joueurs de très haut niveau, quoi.
Bah, écoute, on verra, en tout cas. Mais ça se trouve, aucune de ces équipes qu'on a citées va remporter la Ligue des Champions et on aura l'air bête. À un moment, j'ai cru que le PSG allait l'emporter et que Pochettino allait être l'entraîneur qui gagne le plus de matchs en étant déprimé. Parce que le mec, à chaque fois, doit être énervé contre ses joueurs, mais vu que ça gagne, on ne sait comment.
Record détenu pour l'instant par Thomas Tuchel, hein, les victoires en étant déprimé.
Ouais, même si ça gagnait un peu moins quand il est parti du PSG, tu vois.
Ouais, mais c'était très déprimé quand même.
Oui, c'était très déprimé. Disons que le ratio victoire-dépression était assez puissant. Je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup d'autres coachs qui aient rivalisé. Conte a un peu ce truc-là quand même, où il est jamais très heureux, même quand il gagne. En ce moment, il gagne.
Ouais, mais il est pas déprimé, il est énervé.
Voilà, quoi. Il est énervé, ouais, il est en colère. C'est un homme colérique. Quelque chose à rajouter, Flo, sur la Ligue des Champions? En dehors de Lille, évidemment, dont on va parler.
Non. Non, là, non, pour l'instant, pas grand-chose à rajouter.
Donc pas aujourd'hui, du coup.
Ouais. Non, mais on verra peut-être. Il reste une journée de Ligue des Champions où les matchs... Enfin, il y aura le match de Lille qui sera un match en jeu. Mais c'est vrai qu'il n'y en a plus beaucoup. Alors, c'est vrai que
on va suivre la poule de l'Atlético, hein, où j'annonce depuis quelques temps, soit dans le podcast, soit entre nous, que je les vois très bien en C3. Là, c'est même pas sûr qu'ils fassent 3e, ils vont potentiellement être 4e.
Il y a le Barça qui peut se faire sortir aussi.
Mais Barça-Benfica, même si le Barça passe son destin. Enfin, si, mais il faut battre le Bayern, donc ça va pas forcément être facile. Mais donc là, ça fait deux groupes que moi j'ai envie de suivre et que je pense que je vais suivre peut-être sur des choix de matchs différents de vous pour en parler sur le dernier épisode.
Non, mais c'est l'avantage du match, des résultats de ce soir, c'est qu'on pourra faire l'impasse sur le Bruges PSG qui n'aura plus aucun.
Après, il est 19h, je crois, le Bruges PSG.
Ah, bon, on fera pas l'impasse, du coup, on le regardera. Mais.
Dortmund est éliminé, là, en fait.
Oui, Dortmund était éliminé. Terrible, j'ai l'impression de parler à vie à Souli. Oui, sur la dernière journée.
Mais ils me font douter, ces Portugais.
Sur la dernière journée, les matchs de 19h n'ont aucun intérêt puisque c'est la poule du PSG. Et sur le mercredi, c'est Juve Malmö et Zenit Chelsea. Donc là aussi, la Juve et Chelsea qui se promènent. Donc en gros, vraiment les deux poules où il y a deux équipes au-dessus du lot. Donc bon.
Donc on verra.
Mais ça te laisse sur le match de 21h le choix de regarder.
Après, t'as le Atalanta-Villarreal qui sera cool.
Oui, qui est en tout cas un enjeu.
Bah oui.
Mais ça mord sur le Wolfsburg-Lille. Donc là, il va falloir faire des choix, quoi. Il y aura et Bayern-Barcelone, et Atalanta-Villarreal, et Wolfsburg-Lille le même soir. Donc est-ce que l'un d'entre nous se sacrifiera pour voir autre chose?
Non, je pense pas. On va continuer à suivre les Lillois. Et puis il y aura en Ligue Europa Conférence Rennes-Tottenham, je crois. Donc ça sera une semaine intéressante pour les clubs français. Et on passe maintenant au match entre Lille et le Salzbourg. La victoire lilloise, 1-0 grâce à Jonathan David après une percée folle de Burak Yılmaz dans la surface. Messieurs, c'est une bonne chose pour le football français que Lille continue à gagner, puisqu'on avait vu Lille l'emporter contre Séville lors de la journée précédente, et malgré les suspensions d'Iconé et de Benjamin André, l'équipe de Jocelyn Gourvennec est bien placée pour se qualifier lors du dernier match contre Wolfsburg. On va d'abord donner les compositions des deux équipes. Du côté de Lille, Gerbich dans les buts, une défense à 4, Selic, Font, Diallo, Reinildo, une ligne de 4 au milieu de terrain aussi avec Wea à droite, Sanchez et Sheka au milieu de terrain, Bamba à gauche, et un duo Yılmaz David devant. Du côté de Salzbourg, le losange habituel, avec derrière dans les buts Kohn, Christophe.
Je voulais juste... Parce qu'en fait, je réfléchissais, c'est le seul joueur qui me vient pas forcément en tête, et je me disais, il n'y a pas de défenseur, mais oui, non, dans les buts, c'est Kohn.
Kohn, avec une défense, Christensen, Ongainé, Weber et Ulmer.
Weber, d'accord.
Susic, Kamara et Saival de milieu de terrain, derrière Aronson en 10, et Sesko et Adeyemi en pointe, dans le losange de Salzbourg. Alors, 11 tirs à 6 pour Salzbourg, quand même. Donc Lille ne s'est pas créé énormément d'occasions, Florent, mais il y a eu des bonnes possibilités qui se sont d'ailleurs concrétisées à la 31e minute pour Jonathan David, des bonnes possibilités pour Lille en contre, dans la profondeur et surtout sur les côtés face aux losanges de Salzbourg, pardon. Et c'est ce que Lille a su de mieux en mieux attaquer au fil notamment de la première période.
Ouais, après, on peut aussi prendre le volet des 11 tirs de Salzbourg, parce que finalement, quand on regarde les XG, bon, c'est très serré en termes de XG, ça ne s'est pas envolé. De toute façon, je pense que dans tous les matchs du groupe, à part peut-être Salzbourg à l'aller contre Lille, où Salzbourg avait assez largement dominé, en tout cas, c'est ce que je vois sur les XG de chez 538, là, t'as quand même 11 tirs de Salzbourg et 0,5 XG à l'arrivée pour eux. Alors, il y a cette action d'Adeyemi qui aurait pu aller chercher son 6e pénalty en l'espace de 5 journées où ça se joue à pas grand-chose avec l'intervention de Diallo. Mais c'est vrai qu'au-delà de la perf offensive, et en effet, on peut revenir dessus parce que je pense que Lille avait préparé des choses, notamment pour bien utiliser la largeur et éviter les zones où Salzbourg a l'habitude de mettre beaucoup de pression et d'intensité dans le cœur du jeu. Il y a quand même une perf défensive qui doit rassurer, qui est dans la lignée de ce qu'ils avaient fait à Séville, qui est dans la lignée de ce qu'ils avaient fait aussi lors du match de la 3e journée où ils font 0-0 contre Séville, où tu as quand même une défense très solide et après, bon, bah, ils sont capables de mettre le petit but de plus, d'avoir cette efficacité que l'adversaire n'a pas eu, et d'avoir aussi la seule grosse occasion du match, puisque l'occasion de David, globalement, c'est la seule véritable opportunité de la rencontre pour les deux équipes.
Alors avant qu'on s'intéresse aux performances individuelles, parce que je pense qu'on aura beaucoup de choses à dire sur les Lillois, Christophe, il faut quand même préciser que Salzbourg a eu un gros temps fort en première période pendant Alors sur Canal+, il disait 15 minutes, je pense que c'est un petit peu plus court parce que Lille a quand même quelques espaces déjà au début du match. Mais après une dizaine de minutes, Salzbourg prend le dessus et prend le dessus à peu près jusqu'à, je pense, la 23-24e minute. Il n'y a pas énormément d'occasions, mais on retrouve le Salzbourg qui va presser haut, qui récupère le ballon sur sa première ou deuxième ligne et qui derrière s'installe dans le camp adverse. En revanche, on n'a pas vu le Salzbourg qui arrive à trouver des espaces et à attaquer de manière très verticale.
On a vu les mauvais choix, quoi.
Ouais, c'est ça. En fait, le temps fort, il dure pourquoi? Parce que Salzbourg s'est très bien pressé à la perte. Et du coup, une fois que Salzbourg s'installait dans le camp lillois avec ballon, même si les attaques n'aboutissaient pas, les ballons étaient souvent récupérés par des Lillois qui soit réussissaient pas forcément la première passe vers l'avant pour lancer une transition, soit envoyaient une passe correcte, mais vers un joueur qui, lui, se faisait presser, n'avait pas le temps de se retourner. Du coup, ce temps fort, il est quand même pas mal dû à ça. Le bloc lillois recule un petit peu en plus, laisse un petit peu venir. Il y a deux, trois mauvais choix, notamment de Chesko, qui ont fait. Alors, il y a une fois où c'est pas vraiment un mauvais choix, mais en gros, dans ma tête, il pouvait gagner le duel à l'épaule face à Reinildo, il le fait pas. Sinon, concrètement, il met son pied en opposition. Et c'est face à face avec le gardien. Et un où il repique dans l'axe, l'espace s'ouvre, et en fait, il fait le mauvais choix de passe. Tu vois pourquoi? Il écarte pour, je crois, un appel croisé d'Adeyemi, mais en tout cas, il fait une passe qui ne va pas dans le sens du jeu. Mais c'est, encore une fois, ça, c'est même pas des occasions, parce qu'il n'y a pas de tir, c'est juste des situations où ça peut se jouer sur un dernier geste pour qu'il se passe quelque chose, mais c'est plutôt une dynamique comme tu as un petit peu autour du changement lillois Onana pour Yılmaz à la 70e, entre, je sais pas, entre la 65e et 75e à peu près. Salzbourg a à nouveau une espèce de temps fort. Mais c'est plus dans l'occupation du terrain qu'autre chose. Et on s'est rendu compte que, à la fois dans l'utilisation du ballon pur, donc pas juste ces phases de transition où une fois que tu es dans le camp adverse, tu la perds, tu la récupères, et du coup il y a la désorganisation de l'équipe qu'il avait un temps récupéré, le truc classique façon Club Dortmund. Hormis ça, Salzbourg sur attaque placée n'a rien trouvé de particulier. Même, ça se jouait même pas sur les derniers gestes, c'était même sur les avant-derniers. Ou sur des situations de 1 contre 1 où tu perdais tes 1 contre 1. Donc là, c'est en gros, ta phase préparatoire te donne l'opportunité d'avoir 1 contre 1, mais tu le gagnes pas. Donc ça, c'est la première chose embêtante. Et puis même sur le pressing, là, sur attaque placée lilloise, donc pas sur une transition, juste Lille veut relancer, toi, tu vas chercher. Bah, Lille avait toujours des joueurs pour sortir de cette pression-là. Du coup, Salzbourg, fallait que ça aille dans le camp adverse et qu'ensuite, il se passe des choses. Or, Lille était suffisamment bon pour faire en sorte que cette situation-là ne se reproduise finalement pas si souvent.
Et d'ailleurs, des milieux de terrain de Salzbourg qui sont forts d'habitude pour récupérer le ballon et pour jouer vers l'avant, je trouve qu'on a encore été, en tout cas personnellement, j'ai toujours aimé, je crois, celui qu'on avait déjà apprécié à l'aller, Florence et Camara au milieu de terrain, Mohamed Camara, et je trouve qu'il avait encore été supérieur à ses partenaires au milieu, donc Saïvals aussi de chez Aronson, dans l'orientation, dans les récupérations de balles, même dans le jeu vers l'avant, parce qu'il envoie quasiment, c'est ce que je crois, un contre un à un moment.
Camara qu'on a surtout vu sous pression aussi,
Ouais.
très résistant sous pression en début de match. Il a quand même, alors je te rejoins hein, sur le fait que ce soit le milieu de Salzbourg qui ressorte le plus. Bon, après, il faudra parler de Lille aussi, mais il a quand même eu des hauts et des bas dans le match, j'ai trouvé. Il y a quand même un manque de constance sur 90 minutes sur cette partie-là. Oui, bah, tu vois, il démarre très fort avec deux trois sorties sous pression impressionnantes et puis. Il a 10-15 minutes aussi où il plonge un peu comme le reste de l'équipe de Salzbourg. Donc, après, ça reste c'est un 2000, je crois. 2000-2001, peut-être.
Il
On
a
va mettre Camara aujourd'hui, je crois.
21 là, en tout cas.
Ouais, donc 2000. Enfin, l'un ou l'autre,
Il
du
est de
coup.
janvier 2000. Il va avoir 22 ans dans 2 mois.
D'accord. Mais oui, d'assez loin, le joueur le plus intéressant. Surtout que tu parlais de Seyvald. Il passe tout près de prendre deux jaunes dès la première mi-temps, avec ce tacle sur Weah. Si Weah tombe, je pense qu'il prend le deuxième. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, Salzbourg a quand même eu du mal, comme le disait Christophe, au-delà du fait de soit y récupérer très haut, soit y récupérer très vite, ou les deux. Mais c'est vrai qu'une fois que Lille réussit à sortir de la pression et à orienter d'un côté, ils ont quand même plutôt bien manœuvré pour bien occuper la largeur et utiliser tout le terrain. Pour un petit peu balader les milieux de Salzbourg. D'ailleurs, ça se voit sur le but, hein, puisque ça part, je crois, de Çelik, qui est côté droit, qui renverse côté gauche vers Yılmaz, qui rentre intérieur. et qui va ensuite avoir ses 7-8 contres favorables pour finir sur la frappe de David.
Et on l'a vu aussi dans les sorties de balle où dès que Sanchez arrivait à s'orienter de la droite vers la gauche, il a trouvé soit Reynaldo, soit directement Yilmaz d'ailleurs, qui venait souvent se placer aux côtés de Bamba. C'était difficile et c'est peut-être aussi pour ça qu'on a moins vu les milieux de Salzbourg, c'est que ça a rarement joué dans leur zone. On a surtout vu Christensen ou Meur ou les relayeurs qui devaient aider mais qui arrivaient tard.
Il y a eu plusieurs choses en fait quand tu vois les sorties de balle lillois sur ce match. La première chose en effet, c'était que tu avais déjà des latéraux assez bas pour offrir des solutions sur les côtés. Tu avais Renato qui n'hésitait pas à décrocher très bas pour offrir aussi sa capacité à prendre la pression tout seul et à ressortir le ballon proprement, même si parfois c'est un petit peu à l'arrache, mais il s'en sort quand même très souvent vu le nombre de risques qu'il peut prendre. Il y a eu aussi un très bon David en appui dans les premières minutes. Et il y a eu aussi ce jeu direct dans le dos des latéraux, particulièrement dans le dos de Christensen en première mi-temps, avec des longs ballons de Reynaldo direct dans le dos vers Bamba.
Il y en a eu un de Fonte aussi dans le dos de Christensen.
De Fonte, ouais. Et du coup, t'ajoutes toutes ces armes-là, en fait, et t'avais un bon attirail quand même pour sortir de cette pression, puisque face à Salzbourg, c'est une des clés du match. Si tu veux résister, il faut réussir à tenir face à leur pression et à garder la balle.
On a vu aussi, Christophe, et c'est quelque chose qu'on a déjà développé dans Vue du banc, les limites du losange une fois que tu ne peux plus presser haut, que tu n'y arrives pas. C'est un système qui, quand il faut défendre la largeur dans ton propre camp, est très complexe, parce que pour les relayeurs, c'est extrêmement exigeant. Tu peux créer des deux contre un assez faciles sur les côtés. Tu ne sais plus trop quoi faire de ton 10 et tes deux attaquants. Et je me suis même demandé si à un moment Salzbourg aurait pas dû, une fois que le premier pressing n'a pas eu de succès, pourquoi pas un peu changer ton organisation une fois que t'es dans ton camp. Alors comment ça aurait pu se passer, ça dépend du profil des joueurs, est-ce que ça aurait dû basculer en 4-3-3 ou en 4-1-4-1, mais j'ai trouvé que du coup ça facilitait la tâche de Lille, puisque tu savais très vite dans quelle zone attaquer l'adversaire.
Bah, c'est vrai que je ne suis pas du tout dogmatique sur les systèmes, des choses comme ça. Tu as généralement autant d'avantages que de faiblesses. Sinon, d'ailleurs, il n'y aurait pas autant de systèmes utilisés. Mais c'est vrai que si j'ai deux avis qui sont un peu quand même supérieurs aux autres, où je suis assez neutre et je constate les animations, etc., c'est que, je trouve que les défenses à 3, notamment le 3-4-1-2, 3-4-2-1, ça permet quand même certaines supériorités structurelles qui, je trouve, dans le foot actuel, sont quand même assez intéressantes, notamment sur le plan de la relance. Et deux, que le 4-4 de losange est quand même un système qui me convainc assez peu, sauf, encore une fois, quand tu arrives à presser comme des barbares. Alors par contre, quand tu arrives vraiment à presser, c'est génial en fait, vraiment ça se marie parfaitement. Tout le monde peut trouver un vis-à-vis, tu peux mettre, même si bon, face à un 4-4-2 c'est peut-être un petit peu moins le cas.
Et j'aimais beaucoup, mais... je sais pas si tu t'en souviens, du losange de Caïra à Villarreal.
Là tu en parles souvent, ouais. En même temps, des losanges il n'y en a pas un milliard, donc t'arrives vite sur ça ou sur celui de Lyon ou celui de Salzbourg. Mais oui, non, celui de Caïra était sympathique. Mais oui, quand t'arrives pas. Et de toute façon, c'est vraiment, c'est rare d'avoir un système qui ait autant de forces et de faiblesses sur le plan de l'occupation des zones, en fait. C'est-à-dire que vraiment, t'as tout le monde à l'intérieur, et contrairement aux pistons qui, eux, sont seuls sur leur côté, mais sur une position intermédiaire, là, tes latéraux sont seuls sur le côté, mais ils sont a priori fixés sur une position assez basse. Et c'est vrai que tout le monde sait que face à un losange, en gros, il faut changer, passer d'un côté à l'autre, et les deux relayeurs auront pas mal de zones à couvrir. Et d'ailleurs, là, ils ont failli, l'un des deux a failli prendre un rouge assez rapide. De manière générale, l'arbitre était assez chill d'ailleurs, parce qu'il peut mettre des deuxièmes jaunes aussi à Jalot, à Christensen. Mais oui, Lille avait très bien identifié le truc, mais au premier match, j'avais pas forcément su le faire, et avait aussi subi le côté digestion d'un coup du sort avec le penalty qui derrière amène un énorme temps fort de Salzbourg, alors que là, le match tourne dans le bon sens. Alors c'était pas illogique, hein, mais je veux dire, le but tombe à un moment où ce match est un peu 50-50 sur la première demi-heure. Et derrière, tu sens vraiment, là aussi, un aspect qu'on évoque, qui n'est pas forcément tactique, mais qui se ressent toujours dans les matchs, c'est l'aspect dynamique. Et vraiment, ce but-là change quand même la motivation des deux équipes, la confiance dans les gestes, le fait de surjouer pour l'une et de l'autre, finalement, rester dans son plan de jeu et prendre ce qu'on va lui donner. Donc c'est vrai que tout ça a joué. Et bien sûr, il y a la notion de duel qu'on est obligé d'évoquer. J'ai l'impression qu'on l'évoque presque plus du côté sur les matchs de Lille que sur d'autres matchs qu'on évoque dans Vue du banc. Mais parce que là, typiquement, Reinildo face à Adeyemi, notamment, c'est une énorme clé du match parce que Adeyemi est l'étoile de l'équipe d'en face. Et si lui gagne 5 contre 1, le score est totalement inversé, quoi.
Bah, d'ailleurs, Lille claque 20 dribbles réussis et Salzbourg seulement 8,
Ouais,
ce qui peut paraître étonnant
alors.
avant le match, même s'il y a Bamba et Weah, ça peut étonner.
Alors que si on revient, je crois que c'était le 0-0 contre Séville. Il me semble que c'était un des matchs les plus faibles en dribble tenté de part et d'autre, en fait. Donc
En
Lille
football
a.
tenté même, je crois.
Ouais, c'est pas impossible. Mais
est-ce qu'il y
bon,
avait Renato à l'aller contre Séville?
Ouais, voilà, c'est ça aussi. Il y a le facteur Renato, parce que sur les 20 dribbles, Renato en tente 6, en fait 6. Et le premier, c'est Bamba. Après, t'as Yilmaz qui en tente 6. Mais combien en tente-t-il sur l'action où il a 8 contres favorables?
Combien en
C'est
réussit-il vraiment sur cette action?
une question qu'on peut.
J'ai
Alors,
9-4 pour Lille
il
Séville
en
en
réussit
dribble.
3. Renato en réussit 4. Et le meilleur dribbleur côté lillois sur le match,
C'est Reinildo.
c'est Reinildo, 80% de
Des
réussite,
dribbles
4 sur
pour
5.
se sortir de la pression, souvent. Des joueurs qui arrivent
Alors que.
lancés et il fait une feinte et les élimine.
Alors que Adeyemi, tu vois, Christophe en parlait, si on donne le chiffre 1 sur 9 sur le match, là,
Ouais,
ce
ouais,
soir.
ouais.
Et du coup, le 1, j'imagine que. Ah, mais non, puisqu'il y a eu faute, je crois que ça compte pas comme un dribble
Sur
réussi.
celui de Diallo? Ouais,
Ouais, sur Diallo, je
parce
pense
qu'il
pas que
était
ce
plus
soit
ou moins
celui-là.
passé, je sais pas trop. Mais donc, Séville allait 9 à 4 pour Lille, mais
Allez,
Renato Sanchez joue côté sur ce match-là, et forcément, t'as pas les mêmes dribbles quand tu sors d'une pression, quand tu casses les lignes depuis le milieu, ou quand tu joues d'un contre 1 sur le côté.
messieurs, j'aimerais qu'on développe les individualités lilloises en commençant par le mec qui, enfin, pour moi, était le meilleur et qui d'ailleurs l'est à travers les stats de WhoScored, c'est Reinildo, même si je sais que Flo a bien aimé le match de Joe David. Mais là, Reinildo, je vous donne ses stats. Donc, on a les stats 4 dribbles réussis, il a 5 tacles réussis, 3 interceptions.
Et 5 sur 5 sur les tacles,
5 sur
en plus. Ouais.
Reinildo, qu'est-ce qu'il a d'autre? Je suis en train de regarder ce qu'il a chopé. Il subit deux fautes. Donc des ballons qui gagnent et qui va réussir à conserver. Est-ce qu'il y a des dégagements dans le match de Rideau? Oui, il y a deux dégagements aussi. Et puis j'imagine qu'en termes de passes, ça doit être assez propre parce que j'ai pas souvenir qu'il ait perdu beaucoup de ballons. 84% de passes réussies, même si le pressing de Salzbourg n'a pas été énorme. Mais c'est plutôt bien. Bah, je vais rester avec Christophe parce que Christophe, tu es un peu le Lillois de ce podcast. C'est quand même une trajectoire assez improbable pour Reinildo qui là devient un latéral de niveau, je sais pas, 8e de finale, quart de Ligue des Champions. Il fait vraiment un grand match et il fait d'ailleurs beaucoup de bons matchs en cette saison en Coupe d'Europe et même en Ligue 1 depuis quelques mois.
Ouais, j'en avais déjà parlé il n'y a pas si longtemps que ça, parce que effectivement, il est recruté pour être doublure. Je me souviens même d'entrée en jeu où il rentrait au milieu pour un peu sécuriser le résultat, où bon, c'était ok le profil défensif, mais qui va compléter normalement un Bradaric plus offensif. Et sauf que là, bon, c'est pas devenu un joueur incroyable sur le plan offensif, mais même, bon, c'était à moitié pour préparer l'avenir parce qu'il est en fin de contrat. Lille s'est pas forcément bougé parce qu'encore une fois, Lille a pas vu venir un joueur qui a 26 ans l'an dernier, 27 ans cette année, aurait ce niveau-là où je crois qu'il est meilleur latéral gauche au trophée UNFP, il me semble. Ce qui récompensait aussi un petit peu la saison lilloise malgré tout. Hein. Je veux dire, ça pouvait être potentiellement indiscutable le fait qu'il soit le meilleur à ce poste-là, mais c'est pour dire que ces matchs de Ligue des Champions-là sont le fruit d'une dynamique qui dure depuis un petit peu plus d'un an maintenant. Mais c'est vrai que au-delà du fait, enfin Mozambique, etc., qu'il soit pas forcément hyper
Il
reconnu
a,
sur les radars internationaux avec sa sélection.
à votre avis, quelles sont ses stats depuis qu'il est arrivé à Lille en comptant sa demi-saison à Belenenses? Donc depuis 2018, depuis l'été 2018, quelles sont ses stats en termes de buts et de passes dé?
Reinildo?
Oui.
Bah, ça doit pas être grand-chose, hein.
Bah,
Il doit être
aucune.
à
Je sais pas, il
zéro.
doit avoir deux passes D et un but.
Peut-être qu'il a mis un but, ouais.
Alors en Ligue 1 et en Coupe d'Europe confondues et championnat portugais, il a zéro but et zéro passe dé.
Bon, c'est au début, j'avais dit rien, et puis ton
Après.
silence m'avait.
Après, ce ne sont pas
Mais c'est
ses
ça,
qualités principales, hein.
mais c'est
Non,
pour
non, mais
ça que.
c'est assez rare quand même, même pour un latéral relativement défensif, même de ne pas se trouver un moment sur une zone où tu peux claquer un centre qui finit. Bon, là, je crois qu'il en fait un pour Bourak,
Il
c'est
a
lui qui l'a
failli.
fait pour Bourak. Bourak qui a
Ouais, et puis
passé
il
son temps
a.
à se battre contre la pelouse, mais c'est quand même assez unique comme cas.
Puis en deuxième mi-temps, il a une montée aussi où je crois qu'il
Oui.
dédouble Onana intérieur et il met un petit pont à Ongainé, il s'entre en retrait, puis c'est intercepté
Oui,
par je ne sais plus qui d'ailleurs, dans
Et
la
c'est là que tu
surface
as
de
dit qu'il avait
défense.
l'étoile.
Oui, exact.
Mais non, mais en fait, c'est bien de le mentionner, mais pas façon critique, façon de dire que c'est un profil T'es beaucoup plus sur la filiation, alors c'est pas le même côté, mais la filiation Lilian-Thuram
Ouais, mais
dans le côté je défends
Wespy.
ma zone
Mais pourtant,
Wespy, ouais.
avec le profil qui semblerait idéal pour attaquer. Il va vite, il est capable d'éliminer, tu te dis il va apporter, et en fait, il est assez sobre. C'est ça qui est étonnant, je trouve. Parce que Lilian-Thuram, tu savais que c'était un central, finalement.
Mais tout ça pour dire que, en fait, je l'ai pas dit, parce que du coup, comme d'habitude, je fais des digressions au lieu de mes phrases, mais que Gudmundsson a été pris, lui, ancien ailier, pour avoir ce profil-là de joueur. En gros, tu relances à 3, avec Celik, troisième central, et ton latéral gauche, lui, va devenir ailier en possession, et l'ailier gauche va devenir demi-espace pour attaquer en 3-2-4-1. Et au final, là, pour l'instant, Reinildo est tellement bon que tu peux pas le sortir. Et ouais, non, vraiment impressionnant. Après, la technique défensive, tout ça, c'est pas des choses que tu vas discuter ici pendant une demi-heure, parce que juste, voilà, le mec utilise bien son corps, il se livre bien, il est pas forcément à contre-temps. Enfin, voilà, c'est du 1 contre 1 défensif. Une fois que t'as dit ça, il n'y a pas grand-chose d'analyser sur le plan tactique. Mais le fait d'avoir un joueur à ce niveau-là, c'est totalement inattendu, malgré tout, pour Lille. C'est vraiment un bonus. Et le fait, ne serait-ce que, au-delà de la progression, etc., que lui ne sorte pas de sa saison, entre guillemets, alors qu'il est en fin de contrat, c'est fort, parce qu'il y a des joueurs que tu peux perdre parce qu'ils sont déjà plus ou moins
Ah
sur la
bah.
réflexion sur l'après dans leur carrière, quoi.
Là, tu peux aller chercher un contrat sympa hein, pour Reinildo avec une saison comme ça. S'il se pète pas, ça peut être
Alors, je
cool
pense
pour lui.
qu'un Porto ou des choses comme ça vont aller
Ouais.
regarder de très près. J'ai vraiment zéro info, il n'y a rien qui filtre. Mais je pense que lui, comme Cheka, peut-être à un niveau moindre, mais il y a des clubs portugais de mon niveau qui vont être intéressés, clairement.
Alors qu'on s'inquiète un peu plus pour l'avenir de Domagoj Bradaric.
Qui c'est cataclysmique encore là ce week-end contre Monaco. Lille faisait un match et lui il faisait un autre match hein, dans
Il
son coin. Mais
s'est un peu
c'était pas le même sport. Hein.
étoffé physiquement ou toujours pas?
Non mais au-delà de ça,
Non, parce que
c'est
c'est ce
peut-être
qui
un
m'a choqué le
sursaut un
plus
petit
quand il
peu.
est arrivé, c'est que tu te dis, voilà, mais il va rien qu'à l'épaule en fait, il va jamais tenir le moindre ailier, tu vois.
Non mais c'est genre toute la défense recule et lui il sort ou inversement
Ah
quoi.
oui,
Tu sais,
après, oui, non, ça bien
il est
sûr,
pas
mais.
en synchronisation et rien que ça à ce niveau-là. Bon la première demi-heure de Monaco ce week-end elle était aussi dramatique là-dessus. Mais non tout ça pour dire que autant Sanchez c'est globalement la trajectoire attendue d'un mec qui n'aurait rien à foutre là si tout s'était aligné à peu près normalement dans sa carrière. Autant Reinildo, le fait que ça soit, c'est la discussion qu'on a avec Florent, sans doute le meilleur latéral gauche de cette poule, alors que c'est peut-être le poste où il y a le plus de concurrence, les latéraux gauche avec Acuna, avec Roussillon et avec Ulmer, par rapport au poste de latéral droit par exemple, qui est beaucoup plus faible dans les différentes équipes, c'est une vraie bonne surprise et enfin, c'est les deux gros joueurs à ressortir sur ce match-là, avec évidemment Jonathan David, mais lui c'est sur la dynamique de la saison.
Bah Joe David, on va en parler avec Flo, parce que Flo aime bien Joe David, et Joe David étoffe son jeu, et je trouve a de plus en plus de volume, parce que c'est ce qui lui manquait un peu quand il est arrivé en Ligue 1, c'est que tu le voyais pendant 2 minutes et après tu le cherchais pendant 15. Et là on l'a vu beaucoup, même dans les moments où Lille était en difficulté, où il fallait sauter les premières lignes pour aller dans le dos du pressing de Salzbourg, mais il était présent. Et ce qui est impressionnant encore, je trouve, sur son but, c'est sa capacité à enchaîner très vite pied droit, pied gauche dans des petits espaces, que ce soit pour une petite remise ou que ce soit pour marquer.
Ouais, c'est ça. Autant Yilmaz sur l'action, il n'y a pas grand-chose de contrôlé.
Non.
Autant lui, il fait la remise parfaite et il finit bien l'action derrière, quoi. Donc ouais, t'avais quand même une vraie différence de maîtrise entre les deux. En plus, David, on est quand même sur quelqu'un qui a voyagé pas mal la semaine dernière, il sortait d'une belle période d'ailleurs avec le Canada, qui devrait se qualifier pour la Coupe du Monde au Qatar.
Bah, il commence à avoir des joueurs sympas, le Canada, c'est un pays qui monte hein, dans le foot.
Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que ouais, surtout c'est un attaquant qui, je crois que c'est après le match aller face à Séville où là encore je reviens sur ce match où il s'était rien passé. Je crois que David était sorti avec 12 ballons touchés ou quelque chose comme ça. On en avait parlé, il y avait eu très très peu de ballons touchés. Ce soir c'est 47 ballons touchés, ce qui est pas mal pour un attaquant. Et en effet, comme je le disais tout à l'heure, en évoquant les sorties de balles du LOSC, il a été très bon pour se rendre disponible, notamment. Pour attirer un petit peu ses adversaires directs, dont les attaquants, vers les côtés. Quand Lille sortait les ballons, il avait demandé dans le dos du latéral qu'il sortait, lui, soit sur Bamba, soit sur Weah. Et ensuite, il remisait vers l'intérieur, vers un partenaire. Donc ça, il a été très bon sur cette période-là. Et oui, un attaquant ultra complet, enfin, et qui en plus fait beaucoup d'efforts sur le plan défensif.
Il y a encore une marge de progression, je trouve, dans le, bah justement la participation au jeu. Tu vois qu'il y a des matchs à 40 ballons, des matchs à 12, et je trouve que parfois même il marque dans un match où on l'a pas tellement vu.
Ouais, un souci de régularité.
Je parle pas de ce match-là, hein, mais en général, il y a des. Tu sais, moi quand j'ai vu qu'il était à 8 buts à un moment de la saison, là il en est à 10 en Ligue 1, je me suis dit, ah bon, mais Joe David est à 8 buts, alors que tu regardes les matchs, parfois tu le vois pas. Ouais. Je pense que c'est un peu.
Non, mais oui, oui, il y a encore un souci de constance, parfois dans un même match, et de régularité d'un match à l'autre. Mais quand il fait des matchs comme celui de ce soir, je serais pas surpris que ce soit le troisième gars qui récolte la meilleure note avec Reinildo et Renato.
Alors, il y a beaucoup de bonnes notes du côté de Lille, donc il est même pas dans les trois meilleurs. Je vous donne les notes sur Ouscord. C'est Reinildo le meilleur avec
8-6. Ah oui, sur Ouscord.
Sur 8-6, ouais. Le deuxième, c'est Sanchez avec 7,4. Et derrière, t'as Fonte et Bamba, 7,3. Jalo,
après le fait de passer des dribbles aide pas mal, il me semble. Ouais. David n'est pas un attaquant qui va tenter ce genre de choses et qui va tenter les skills. Donc là ce soir c'est le David qu'on aimerait voir en effet beaucoup plus régulièrement. Mais bon, c'est une constance qu'il est en train de trouver, parce que quand tu vois ses chiffres, si en plus maintenant dans les matchs où on le voit pas, il claque quand même son but. Mmh. Ça va devenir un truc très intéressant, et en effet l'investissement fait sur lui où la saison dernière tu pouvais dire ouais on va voir, là tu commences à avoir un petit peu confirmation que ça risque de devenir quelque chose de très intéressant.
Depuis le 22 septembre et le match Lille-Reims, donc il y a deux mois, il a marqué 13 buts toutes compétitions confondues, et en comptant la sélection canadienne où il a marqué contre le Panama et contre le Costa Rica. Donc 13 buts en deux mois pour un joueur qui la saison dernière en avait claqué une douzaine, si je ne m'abuse, Joe David.
Ouais, il avait mis un peu de temps à se réveiller. Et sur l'année civile, ça doit être, je l'avais noté tout à l'heure, mais c'est l'un des meilleurs buteurs européens. Je crois qu'il a 21 buts, du coup maintenant 22. Sur l'année civile, ce qui me permet quand même, petit coup d'œil dans le rétroviseur, de rappeler les propos d'André Villas-Boas défendant Dario Benedetto. Jonathan David a coûté trois fois plus cher à Lille et ils ne marquent plus. Mais là, personne ne dit rien. Voilà, rappeler ces propos de Villas-Boas qui pensait sans doute bien faire en disant que Benedetto n'était pas le seul dans la maladresse, qu'à l'époque il y avait Jonathan David. Et il y en a un qui est aujourd'hui relégable avec Elche. Et l'autre, après, qui est buteur en Ligue des Champions et premier de groupe.
Après, Villas-Boas est multimillionnaire et il va avoir une vie parmi les plus belles du monde entre ses 45 et sa mort, je pense.
Après, ça l'empêche pas de dire des choses intelligentes non plus. Hein, je veux dire.
Non, bien sûr, mais je suis pas sûr que ça lui change sa vie, tu vois. Mais sur Jonathan.
Ah, mais ça pourrait, hein, parce que là, clairement, les propos que je tiens à son égard, pourrait pousser à une remise en question.
Si quelqu'un a le WhatsApp de Villas-Boas, faites-lui un petit vocal avec l'analyse de Christophe Kuchli.
Après, sans doute qu'il a fini par faire la même. Mais je veux dire, déjà à l'époque, tu sentais qu'il y avait quand même, enfin, c'était pas forcément la bonne cible, quoi, qu'il y avait des chances que ça tourne.
Ouais.
Et qu'il y avait sans doute d'autres joueurs sur lesquels tu pouvais te dire, l'avenir va pas me donner tort si jamais je lui mets un doute de coup sur la tête, quoi.
André, viens te défendre sur les ondes de Vue du banc, on t'attend. Ce sera la première interview, Christophe Kuchli versus André Villas-Boas, ça promet. Mais Jonathan David marque dans des gros matchs aussi, je suis en train de regarder son historique de but cette saison, il met doublé contre Marseille, il marque au Parc des Princes, il marque contre
Séville. En étant blessé au Parc en plus.
Il met doublé contre Monaco, et donc là il marque à nouveau contre Salzbourg, donc il marque pas dans n'importe quel match. Et c'est aussi une qualité, il y a des joueurs qui mettent des buts parfois anecdotiques.
C'est même une énorme qualité.
T'entends ça, André Villas-Boas ? On provoque, on cherche. Les autres individualités, on peut parler de Diallo et de Fonte, messieurs, parce que Flo, tu parlais de la performance défensive des Lillois. Donc, les deux centraux ont été performants.
Oui, alors Diallo, il y a cette action sur Adeyemi où il peut détruire son match et détruire le match des Lillois.
Ouais, ça peut faire rouge et péno, ça fait pas jaune, du coup ça fait rien et coup franc.
Ouais,
ça se joue à pas grand-chose.
Ça se joue à rien, mais c'est vrai que comme à Séville, moi j'avais trouvé très très bon dans la surface à Séville, et là il les soulage sur un corner notamment qui était très bien tiré dans les 6 mètres, où c'est lui qui met la tête alors que je crois qu'il y a un ou deux mecs de Salzbourg juste derrière qui sont prêts à la mettre au fond. Donc Diallo Fonte, ça marche.
Diallo monstrueux ce week-end dans la surface face à Monaco. C'est vraiment ce match-là, il sauve absolument tout, notamment sur la ligne. Donc là, c'est moins marquant, mais parce que les actions étaient coupées un peu plus tôt, quoi, généralement, c'est surtout ça.
Ouais, mais il a quand même été présent justement dans la surface quand ça fallait. Je sais plus combien ça termine en termes de dégagement. Ouais, Fonte termine à 8 dégagements et Diallo à 6. Donc,
pas mal.
Globalement, C'est vrai que t'as pas. Enfin, tu pouvais te demander comment ça allait se passer à partir du moment où Botman.
Après, il y avait. Et dehors. Il n'y avait pas 150 menaces dans la surface non plus.
Non, non, mais. Enfin, ouais. Après.
Mais il y avait quand même les ballons à dégager.
Il y avait
des ballons à sortir, ouais. Et non, après Font, est-ce que c'est là, j'ai l'impression qu'il fait toujours les mêmes matchs.
Oui.
Ce qui est quand même
une qualité,
à souligner à son âge, quoi.
Oui, ça
change. Et surtout,
sûr,
tous ces binômes sont bons. Honnêtement, Font va faire la carrière. Alors, j'exagère un peu, hein. Mais
c'est pas un
dire clairement Gabriel, Botman, Jallo, ils peuvent être très contents de l'avoir croisé.
Est-ce que Font n'est pas le Vitorino Hilton de la Ligue des Champions?
Je sais pas comment interpréter cette phrase.
Parce qu'il
a
quand même 37 ans et j'ai l'impression qu'il est en 33 ou 35. En fait, entre 32 et 37, j'ai pas l'impression que son niveau ait changé.
Ben, surtout qu'il était totalement banal jusqu'à quoi? Jusqu'à 27?
Bah ouais,
quelque chose comme ça, sa première année en première division, c'est genre vers les 27-28, parce qu'au départ, il est dans les divisions inférieures avec Southampton.
Bah oui, c'est ça, ouais. Il monte avec eux.
Il fait un petit passage en Chine avant d'aller à Lille. Mais oui, non. Et puis surtout, alors là, on est vraiment très. On sort un peu du match, hein, mais cadre lillois. Mais honnêtement, c'est lui le coach adjoint. Hein. Enfin, et je dis pas ça sur le côté négatif, genre le coach ne fait rien, machin. Ouais. C'est juste que, tu vois, il y a parfois le côté, oui, Thiago Silva va à l'encontre des consignes du coach sur la remontada, des choses comme ça, enfin voilà, qui dirige. Là, Font, il cadre tout le monde, il vient plutôt à l'entraînement, tout le monde vient plutôt à l'entraînement. Les mecs font n'importe quoi, il les recadre. Enfin, vraiment, c'est le papa, mais sur le sens. Et puis, pareil, tactiquement sur le terrain. Vraiment, je suis pas ultra client au départ du profil du joueur, quoi, qui est assez lent, assez ancien, qui en gros doit ruser pour un peu faire les différences face à des mecs qui vont plus vite, qui a pas non plus un pied incroyable, même s'il se défend, mais je crois que c'est le joueur qui coûte le plus de pénalty en Europe sur les dernières saisons. Mais en fait, c'est un mec ultra précieux et c'est un artisan du renouveau post, à dire Bielsa, mais sur le côté le groupe de Bielsa où le plus âgé c'était Malcuit qui avait 26 ans à l'époque.
Et puis énorme disponibilité puisqu'il enchaîne des saisons à 35-40 matchs à 37 ans. Il joue tout le temps en fait. Il n'est jamais blessé. Donc c'est aussi là une qualité. Pour conclure, pour finir sur ce match, qu'est-ce qu'il faudrait rajouter, Flo? Peut-être un dernier mot sur Renato Sanchez ou
sur la qualif peut-être, une projection. Oui, oui. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, il faut quand même dire que du coup, il ne faut pas perdre.
Tu vas plus vite que la musique, Christophe. J'allais finir ma phrase et dire se projeter vers le match contre Wolfsburg, puisque le match contre Wolfsburg, ce sera le. Je suis en train de regarder les dates, ce sera le 8 décembre
6,
à Wolfsburg. Et c'est un groupe où il peut encore tout se passer, c'est-à-dire que perdre à Wolfsburg, c'est être éliminé sans doute. Puisque à la différence, au glavérage particulier, Wolfsburg serait devant, il y aurait 8 points pour les deux équipes, mais Wolfsburg l'emporterait sur le glavérage particulier. Et dans l'autre match, s'il y a un vainqueur entre Salzbourg et Séville, Lille serait forcément 3e ou 4e. Enfin, pas de 4e, mais 3e.
Non, 4e, c'est pas possible.
Ouais. Ouais, c'est ça.
Donc Lille a au moins assuré la qualif en Ligue Europa. Mais oui, du coup, il leur faut minimum un nul.
Ouais. Soit un nul, soit tu perds et il y a nul dans l'autre match et tu passes.
Ouais.
Ou tu gagnes.
Voilà. Ou alors tu peux gagner. Non, mais c'est vrai que quand il y a eu le tirage et quand tu voyais les perfs de Lille en championnat, tu disais bon, ça va être compliqué. C'est vrai que les voir encore en vie, plus qu'en vie même, ils ont leur destin en main à une journée de la fin. Bah, ça reste une sacrée perf pour une équipe qui était peut-être pas forcément prête à. Mais en tout cas, Lille est en train de profiter à plein de son chapeau 1 et de son titre de l'an dernier.
Oui,
quoi.
Oui. Donc, après, j'ai l'impression que c'est la seule équipe qui progresse au fil des matchs dans cette poule, alors que les autres, alors on verra avec Wolfsburg qui a changé de coach, mais alors que les autres, Salzbourg, entre les premiers matchs et maintenant, c'est plus.
Oui, c'est vrai.
Et Séville, c'est un peu pareil. Tu vois.
Séville, Séville a fait première victoire, là on n'a pas vu le match, hein. On enregistre à chaud après le match de Lille. Mais Séville, tu peux pas parler de progression même s'il y a victoire parce que ça sort de nulle part, quoi. Je veux dire, entre les matchs 1 et 3, il n'y avait pas d'évolution positive.
Bah écoute, on verra ça lors de la dernière journée pour les joueurs et l'entraîneur du LOSC. On espère que Lille va se qualifier. Ce serait quand même cool d'avoir deux équipes françaises en 8e de finale de Ligue des Champions. Ces derniers temps, on a été habitué à en avoir qu'une seule, un peu trop. Et on va passer au pronostic avec PMU.fr.
PMU vous présente la séquence prono.
Les pronos, messieurs, que vous m'avez envoyés, que je vais retrouver en cliquant. Je vais commencer avec Christophe Kuchli, qui va nous parler Ligue Europa. Oui, Christophe, tu ne voulais pas commencer par toi?
Non, si, je veux commencer par moi. Comme ça, ce sera fait.
Vas-y.
On est fatigué. Oui, non, en fait, Paris, où vraiment, je vais pas le cacher, parfois je suis inspiré. Alors, ça paye pas forcément, mais je veux dire, au moins, je vois la logique de l'argumentaire, c'est-à-dire, au moins, je peux être assez fier de ce que je dis. Tu vois, typiquement, l'autre fois, j'avais parié but de Barak. Bon, Barak n'a pas marqué
Est-ce
sur
que
ce match-là, je
tu
crois qu'il fait une
est-ce,
passe D, mais
est-ce que tu
genre.
peux préciser aux gens qui est Barak parce que c'est quand même un joueur de niche?
Bah, Anthony Barak, c'est un milieu offensif qui joue un peu ailier, meneur demi-espace au Hellas Vérone et
Oui, voilà, c'est quand même
qui a fait but
un
et
peu
passe
connu.
décisive sur le match du Hellas Vérone mardi soir. Donc du coup, tout ça pour dire que, tu vois, mon pari passe pas, mais a posteriori, je me dis, bon, j'avais quand même senti le mec un peu en bonne forme, etc. Il y a quand même une. Enfin, lundi soir, pas mardi, parce que mardi, c'est mon enregistrement. Bref, mais là, par contre, j'étais pas du tout inspiré, donc je pars sur des choses, mais sans forcément être 100% convaincu. Je suis désolé, c'est pas hyper engageant, hein. C'est un peu comme les mecs. C'est un peu comme la promo des clés de bagnole quand Laurent Baffie disait n'y allez pas, c'est une merde, et qu'effectivement, les gens n'y sont pas allés. Alors que c'est pas le film le plus indigne. Hein. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Donc, mon premier pari, c'est Locomotive, Lazio Rome. Pari égalité à 3,60. J'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre la dynamique générale de ce groupe-là, où les matchs n'ont pas forcément de sens d'une semaine sur l'autre, et sur le plan des résultats, j'ai l'impression que. Alors, c'est encore Tourelle qui l'a dit avant le match face à la Juve, la victoire 4-0 face à l'auteur de gagner, c'est si simple, où il disait concrètement que la chance jouait une partie. Importante des résultats, et c'est vrai que là j'ai l'impression que la moitié des scores ne reflètent pas la physionomie des matchs. Mais le fait est que la Lazio est deuxième et que le Locomotive est cinquième, que c'est très serré, qu'il y a pas mal de matchs nuls. Marseille n'a fait que ça, que Galatasaray est premier sans forcément être la meilleure équipe. Il y a finalement que 3 points d'écart entre les deux équipes. La Lazio, normalement,
Le locomotive est combien t'as dit?
quatrième avec deux
Ah,
points.
parce que t'as dit cinquième, je me suis dit qu'ils sont vraiment mauvais pour être cinquième dans un groupe qui ne compte que quatre équipes,
Ouais, ça va
pardon.
être comme Derby County qui prend des pénalités de 10
C'est
points
ça.
toutes les semaines en championship. Non, mais du coup, ils sont quatrième avec 2 points. Deux équipes qui sont pas incroyables sur le plan des résultats. La logique voudrait potentiellement la Lazio victoire à l'extérieur, mais avec Florent, on a vu le match entre Kiev et le Bayern. Et dans l'Est de l'Europe, il commence à faire froid. Et tu
Oui.
sentais que le Bayern ne rigolait pas trop de jouer sur un terrain à moitié enneigé. Bon, le Bayern a gagné, hein, mais tu sentais que voilà. Les performances étaient assez nivelées. Et la Lazio, je les ai vues là sur les derniers matchs. Franchement, c'est pas fou, hein. C'est pas si fou. On a déjà parlé régulièrement.
Tu tentes
Et
pas
là,
le but de Moriki?
ouais, non. Là, ils ont perdu 2-0 contre la Juve ce week-end sur deux pénaltys sans forcément être très bonne. Justification beaucoup trop longue pour un pari dans lequel je crois moyennement. Mais un match nul, un de plus dans cette poule à 3,60. C'est le premier pari que je
Ah ouais,
vous offre sur un plateau.
garde ton deuxième pour tout à l'heure, on va aller voir
Oui,
Florent parce qu'en
bien
effet,
sûr.
je pense qu'il a quitté la vie, quitté la scène depuis le début de ton argumentaire. Florent, tu vas parler des
Oui.
clubs français, donc vas-y, je te laisse choisir le
Oui.
premier.
Je vais commencer par celui qui me motive le plus, même si je ne serai pas devant le match, vu que de toute façon c'est un match plié, enfin c'est un groupe plié, c'est Lyon face à Brøndby, Lyon qui se déplace cette fois sur la pelouse de Brøndby, mais Lyon qui est déjà premier, assuré d'être en huitième de finale d'Europa League et de sauter ce fameux tour de barrage où vont se battre les deuxièmes de groupe et les troisièmes de Ligue des Champions. Et donc Lyon, qui à mon avis devrait faire tourner sur ce match-là. Je pense que ça va être l'occasion de voir pas mal de jeunes et sans doute de voir une nouvelle titularisation de Ryan Cherki. Et du coup, je pars simplement sur un but de Ryan Cherki. C'est vrai que généralement quand il joue, il arrive quand même à faire des choses à chaque fois.
Très bon en espoir lors du dernier rassemblement
Ouais.
des Bleus.
Alors le deuxième match était moins convaincant, il me semble, collectivement, mais le premier, je crois que c'est l'Arménie,
Ouais,
où ils mettent un
c'était
carton,
très fun,
il
ouais.
me semble. Et le premier match était très cool. Mais voilà, j'imagine un Cherki à son avantage au Danemark. Et donc un but de Cherki. La cote est à 3,50. Donc voilà, tout simplement. Jusque-là, en Ligue Europa, j'avais Lyon et le but de Toko. Voilà, j'adapte un peu parce que je ne serais pas surpris que Toko souffle un petit peu et fasse l'impasse, pardon, sur ce match. Donc voilà, je pars sur un petit but de Cherki qui pourrait peut-être le remplacer, qui sait.
Christophe, toi tu préfères parler des équipes étrangères et deux équipes qui ont l'habitude de jouer en vert. C'est le Betis Séville contre Ferencvaros.
Oui, à Pastoré, je me rends compte que j'aurais sans doute dû parler de Rennes, mais bon, on peut pas être parfait. Du coup, je ferai un pari, comme tu l'as dit, sur ces deux équipes, le Betis et Ferencváros. Mon pari, c'est Betis moins 2 à 2,45, cote qui traduit le fait que les gens qui font les cotes n'ont pas une énorme confiance dans le niveau de Ferencváros, qui est pourtant leader de son championnat, parce que bon, un moins 2 à 2,45, c'est quand même pas forcément la cote du siècle, mais ça peut s'expliquer dans la mesure où cette équipe hongroise a perdu tous ses matchs. Et oui, il me semble que c'est l'une des seules avec 0 points, peut-être même la seule dans cette Ligue Europa. À l'inverse, le Betis joue vraiment sa qualif. Le Bayern est devant avec 3 victoires à nul, mais entre le Betis et le Celtic, il y a un seul point. Autrement dit, avec l'autre match, et le Bayern qui reçoit le Celtic, si le Betis gagne et que le Celtic ne gagnera pas, voilà, le Betis serait hors de portée. Et le Betis qui a une équipe assez irrégulière, mais plutôt sympathique, qui est quand même cinquième de Liga. Ouais,
ils avaient quasiment pas perdu en 2021 avant d'enchaîner 3 défaites là récemment. Ouais. Betis,
ouais, c'est ça, dont 3, enfin 2 tôles et demi. Ils en ont pris 3 contre l'Atlético, 4 contre le Bayern, et ensuite seulement 2, mais c'est à domicile dans le derby face au FC Séville. Mais ils se sont bien rattrapés ce week-end avec une victoire 3-0 face à Elche. Elche, donc de Pastore, de Benedetto et compagnie. Benedetto qui est d'ailleurs copropriétaire du club dans lequel il joue. Hein,
j'ai cru que tu allais dire comme meilleur buteur.
Non. Puisque c'est son agent qui est propriétaire du club et qui lui a filé une partie des parts, etc. Donc c'est une situation assez comique. Mais tout ça pour dire que voilà, le Betis s'est pas mal réveillé ce week-end. Il y a quand même pas mal de joueurs sympathiques. Ça joue plutôt bien au foot. Donc voilà, une victoire 3-0 plus face à une équipe qui a totalement lâché. Je sais pas s'ils étaient à fond sur les premiers matchs, mais qui en tout cas n'a plus rien à jouer et qui est déjà éliminée. Ça se tente. Je pars du principe que la légèreté, le manque d'enjeu ne va pas les transcender, mais va au contraire leur faire un petit peu lâcher dans la tête et dans les jambes, mon cher Raphaël.
Très bien. On termine avec le pari de Florent qui concerne l'autre match d'un club français en Ligue Europa. C'est Monaco Real Sociedad.
Oui, Monaco Real Sociedad qui avait été assez difficile à regarder.
Horrible.
À l'aller.
Un des pires matchs de la saison.
On s'en rappelle.
C'était un enfer. Mais le dernier Monaco PSV était aussi parmi les pires de la saison. Hein. Donc il y a quand même.
Absolument. Et c'est vrai que tu es en train de dégager une routine un petit peu de Monaco en Ligue Europa.
Pour leur défense, le PSV et la Real Sociedad n'ont rien essayé de beaucoup, de vraiment de plus sur ces matchs-là. C'est une poule où ça se. Alors que ça pouvait être une poule super sexy, ça se ferme.
Ouais. Ça se ferme. Non, mais c'est vrai que c'était assez compliqué. En plus, le match face au PSV que gagne Monaco se débloque vraiment à la fin de match quand Sofiane Diop, notamment, entre en jeu. Mais, et du coup, ouais, je pars simplement sur le pari que ce qu'il s'est passé sur l'aller peut se répéter au retour et au moins avoir une première mi-temps assez fermée. Puisque je pars simplement sur un pari où il n'y aura pas de but marqué en première mi-temps. Alors l'intitulé exact du pari, je vais le retrouver tout de suite parce que je l'ai perdu. C'est moins de 0,5 but marqué en première mi-temps. Et la cote est à 2,45. Voilà. En imaginant un match qui... Parce que c'est vrai que jusque-là, en Coupe d'Europe, Kovac a assez souvent mis des compos assez défensives, assez fermées, en mettant Tchouaméni, en mettant Fofana, en mettant Jean-Lucas un peu plus haut. Et en se privant de joueurs comme Diop ou Golovin pour mettre Folland et Boadou, par exemple, pour compléter ce milieu et cette attaque. Du coup, je me dis, pourquoi changer quand tu as eu des résultats jusque-là, sachant qu'en plus, Monaco devrait sans doute jouer sa qualif vraiment lors du dernier match face à Graz, où il faudra prendre les 3 points. Et en les prenant, ça devrait suffire, à voir. Ce qui se passera aussi dans l'autre match entre le PSV et la Real. Mais bref, tout ça pour dire que voilà, je ne serais pas surpris que Kovac garde ce plan-là jusqu'au bout, en tout cas pour affronter la Real, en fermant un petit peu, quitte à faire rentrer ces artistes à 30 minutes de la fin pour essayer de débloquer les situations. Donc voilà, une première mi-temps assez calme. Et pas de but marqué, c'est coté à 2,45.
Merci Flo pour ce dernier pari et donc la fin de cet épisode de Vue du Banc. On se retrouve rapidement pour parler d'ailleurs des matchs qui sont dans les paris de Flo. Ça va être le sujet de notre prochaine émission. Merci messieurs et à la prochaine.
Salut.
Cordialement.
Vous avez tout compris grâce à ce podcast. C'est le moment de parier sur PMU.fr. PMU, que les meilleurs gagnent.